Salut à toutes et à tous, jeudi matin 11h, il fait froid, on porte des écharpes même dans les bureaux. C'est tout ça pour l'Ukraine évidemment, hein. Soutien à l'Ukraine, des écharpes pour l'Ukraine. Attention Poutine, hein. Je suis aujourd'hui avec une amie très chère que j'aime beaucoup, Myriam Palomba, journaliste de son état, donc du coup, et elle fait partie de ceux qui décident dans le journalisme, c'est-à-dire directrice de la publication, exactement, c'est ça?
Non, pas
Bon.
publication, directrice de rédaction.
De rédaction, pardon, voilà. Donc du coup, on va parler aujourd'hui journalisme français, comment travaillent les journaux, comment on recoupe une information, voilà. Parce qu'il y a quand même des journalistes qui travaillent, et qui travaillent bien, il n'y a pas que des salopards, hein. Il faut essayer quand même de réhabiliter ce métier. D'ailleurs, chère Myriam, est-ce que tu sens là dans l'opinion une forme de désamour vis-à-vis des journalistes?
Ah bah ça clairement oui depuis plusieurs années même hein, il y a un véritable désintérêt de la presse notamment écrite et maintenant aussi télé puisque les gens n'ont plus les lecteurs n'ont plus confiance dans le métier dans ce métier de journalisme où ils estiment pour beaucoup et souvent à raison que le journaliste ne leur apporte qu'une partie de l'information en vue d'une ligne éditoriale qui peut être parfois similaire à de la propagande.
Donc, toi, lorsque tu as une information, parce que tu travailles, c'est vrai, dans le people, qui est aussi une forme de journalisme, quand tu as une information, déjà, comment tu vérifies cette information pour savoir si elle est vraie ou si elle est fausse, et après, comment ça se passe pour sa publication? Voilà, quel est le cheminement entre la réception de l'information et après la publication de cette information?
Alors, de toute façon, le people, c'est exactement comme les autres types d'informations, hein. On a également notre carte de journalisme. Voilà, on reçoit en général des informations, soit par des informateurs avec qui on travaille régulièrement. Donc, quand ce sont des informateurs avec qui on travaille régulièrement, on n'a pas besoin d'aller vérifier l'info 3-4 fois parce que on sait que cette personne est béton ou pas. Aussi, on travaille avec les agences photos qui nous donnent aussi des informations à travers les photos, mais aussi des fois sans photos. Et en fait, en général, quand on reçoit une information comme ça, soit l'informateur est une source fiable, on ne va pas la vérifier 10 000 fois, soit ce n'est pas une source fiable et du coup, on va la vérifier une à deux, voire normalement, la déontologie voudrait qu'on vérifie l'information 3 fois, ce qui est rarement le cas, on ne va pas se mentir. Quand vous la vérifiez une fois et que la deuxième vérification est bonne, vous vous arrêtez là. Enfin, en général, ce sont des informations dont on a l'habitude de traiter et on sait si elles sont plausibles ou pas.
Comment on sait qu'une source est fiable?
Comment c'est qu'une source est fiable? En général, ça c'est avec le temps hein, qu'on le sait parce qu'on travaille avec cette personne depuis plusieurs années. Donc au départ, on va se mettre à vérifier. Je vais changer de lieu. On va se mettre à
Vas-y,
vérifier.
vas-y. Ah ben, comme ça, on peut découvrir chez toi, hein, voilà. On découvre chez Myriam Palomba. Comment c'est, hein?
On va se mettre à vérifier l'info plusieurs fois au départ et puis au final, au bout d'un moment, on va comment s'appelle?
Mais
On
tu es
va
belle sous tous les angles, tu es sublime sous tous les angles.
N'importe quoi.
Parce que comme maintenant tu es devenue une personnalité de médias télé, donc voilà, tu cherches l'angle,
Non,
le fond derrière.
Oui, non, mais c'est vrai, en fait, je me disais, tiens, la casserole derrière moi, c'est pas terrible quand même.
Voilà, c'est ça, voilà. Maintenant, voilà, tu passes de médias presse à télé, et donc voilà, maintenant c'est, voilà, c'est.
Mais c'est vrai que c'est le genre de truc où c'est le genre de truc dont je faisais vraiment pas gaffe avant. Et puis bon, voilà.
Voilà, t'as changé de monde, quoi, c'est ça?
Hein?
T'as changé de monde, en fait.
De monde, non, mais c'est vrai que c'est aussi un autre métier, hein, la télé. Hein. C'est un autre métier.
Mais alors, du coup, voilà. Donc, une source, elle est fiable parce que tu as travaillé longtemps avec elle, c'est ça? Mais si, par exemple, cette source, parce que cette source peut se tromper aussi. La source peut se tromper.
Alors c'est arrivé, ça m'est arrivé 2 fois en 23 ans de carrière. Et ça a été assez violent, ouais.
Tu peux en parler ou pas ou
Oui, bien sûr. Oui, alors c'est dans le monde du people, hein, désolé,
D'accord,
mais
d'accord.
oui, on avait eu une info c'était il y a quelques années par une agence photo qui est d'ailleurs une grosse agence photo qui était venue nous voir en nous disant voilà, Angelina Jolie et Brad Pitt attendent un nouvel enfant, etc. Ah bon, t'es sûr? Oui, j'avais mon photographe, il était derrière eux dans l'avion, elle n'arrêtait pas de se toucher le ventre, etc. Il a tout entendu la conversation, on est sûr, elle est enceinte. Je fais OK. Alors, en général, les grossesses, on attend que ça soit plus de 3 mois pour les dire. Donc, je dis, bon, t'es sûr que c'est plus de 3 mois qu'elle a passé les côtes des douces? Oui. Enfin, vraiment une grosse signe. L'agence qui nous a balancé ça, si tu veux, c'était une agence photo énorme. Enfin, c'était pas du tout la petite agence, voilà, qui travaillait de façon occasionnelle. C'était vraiment une grosse agence. Je vais éviter de dire leur nom pour leur mettre la honte. Et en fait, ouais, ok. Bah, super info. En plus, pour nous, c'était limite un scoop mondial. Donc, franchement, on titre scoop mondial, on y va à fond. Et là, catastrophe. Donc, on sort Angelina Jolie, Brad Pitt, scoop mondial. Ils attendent un nouvel enfant, etc. En plus, on avait été vérifiés parce qu'ils avaient des photos. On les voyait aller à l'hosto, etc. Chez le gynécologue, machin. Donc, bon, on se dit super, c'est béton. Et en fait, donc, on sort le vendredi et le lundi ou dans le week-end, je sais plus. Angelina Jolie annonce qu'en fait, elle s'est fait enlever les ovaires pour éviter un cancer. Et donc, elle n'était pas du tout enceinte, mais elle avait effectivement une chirurgie et était à l'hôpital plusieurs fois, pas parce qu'elle a été enceinte, mais parce que par peur d'avoir un cancer, vu que sa maman était morte de ça, elle s'était fait enlever les ovaires. Donc, comment vous dire? Là, franchement, vous vous sentez hyper mal, hyper mal. Dans ces moments-là, donc évidemment, je suis tombée sur l'agence photo, vous faites un communiqué de presse pour vous excuser. Enfin, vraiment là, c'est vraiment, enfin, ça m'est arrivé 2 fois et c'est souvent sur les grossesses, donc ça, faut faire vraiment très
Mais
attention.
justement, comment on gère une erreur?
Soit on se dit bon, on se fait tout petit. Et on attend que ça passe, sachant que depuis plusieurs années, une info chasse l'autre, un buzz chasse l'autre. Donc, en général, ça s'oublie assez rapidement. Soit on fait un mea culpa et nous, on a fait un mea culpa et on a attendu que l'orage s'apaise. Et évidemment, on n'a pas payé l'info, ni les photos, rien du tout à l'agence photo avec qui on n'a plus vraiment bossé sur ce genre de choses avec elle, quoi. Parce que là, vraiment, la confiance était rompue.
Donc du coup, ouais, parce qu'il y a ta crédibilité, il y a la crédibilité de ton journal qui est en jeu pour le coup.
Ah bah oui, surtout sur ce journal, c'était quand même un journal de scoop. Donc le but, c'était pas de raconter. Avant, je gérais des journaux où bon, voilà, on grossissait, etc. Mais sur ce journal-là, c'était vraiment du scoop. Donc non, franchement, là, c'était vraiment là. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, hein, parce que je me souviens avec ce journal, on a été les premiers. C'était pour le coup, c'était un scoop mondial. On avait sorti la première grossesse de Meghan Markle. Donc ça, c'était plutôt chouette, mais bon, c'est toujours un risque. Et c'est vrai que quand on sort surtout sur les grossesses, quand on sort ce genre d'infos, on a toujours un gros stress au moment de la sortir parce qu'il peut arriver plein de trucs. Ça m'arrive aussi une fois de sortir une grossesse et malheureusement, pourtant ça faisait plus de 3 mois et malheureusement la personne a perdu, l'actrice avait perdu ce bébé et franchement, là, ouais, c'est compliqué, quoi, parce que moi, en tant que femme, c'est des choses qui me touchent aussi énormément, et on se pose vraiment beaucoup de questions à ce moment-là. Voilà.
Quel est le retour public du public lorsqu'il y a une erreur voilà, flagrante comme par exemple sur cette grossesse?
En général, le public, il est plutôt. Il est plutôt indulgence et bon, soit quelques courriers, quelques coups de fil. En général, faut pas que ça se reproduise évidemment régulièrement parce que sinon, bah, il y a un discrédit, hein, et que vos ventes s'en ressortent. C'est plus les gens du métier qui sont hard. C'est les gens du
D'accord.
métier, ouais, ils sont vraiment
Ah, mais
hard.
qu'est-ce qu'ils disent?
Oh bah, il y a les concurrents qui vont faire la couve d'après, ils vont faire un sujet là-dessus ou en disant voilà, enfin. si vous sortez qu'elle est enceinte, vous allez la terrible erreur. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi.
Donc, ça veut dire que c'est un milieu, mine de rien, assez concurrentiel et où les uns et les autres se taclent. Ce n'est pas comme on peut penser une forme de. Tu sais, un genre de clan de journalistes qui.
Ah non, pas du tout. En tout cas, en presse people, et je crois que c'est un peu pareil partout, c'est très concurrentiel. Alors, on a en fonction des gens qui dirigent les magazines. Moi, je sais qu'à l'époque, bon, j'étais plutôt amis avec la plupart des directeurs de rédaction, entre guillemets amis, hein, parce que c'est pas non plus mes proches, mais voilà, on avait une espèce de courtoisie, mais ça n'a pas été toujours le cas. Et moi, la première, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, ça m'est arrivé d'y aller aussi pas mal pour saquer la concurrence, ouais.
Alors, comment on fait pour devenir d'abord journaliste et après directrice de rédaction?
En fait, moi, j'ai un parcours un peu banal, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Je savais pas dans quoi exactement. Donc, j'ai fait une maîtrise de philo, et puis ça n'a rien à voir. Et puis après une classe préparatoire, donc je suis arrivée en licence et maîtrise de philo. Et puis bon, je me disais que j'allais peut-être être prof de philosophie parce que j'adorais ça. Et puis en fait non, parce que moi depuis 16 ans je voulais être journaliste. Et du coup j'ai passé l'école le CFJ par la voie professionnelle. Et du coup, je suis devenue journaliste comme ça avec une formation de 2 ans. Mais bon, pour être journaliste, en fait, soit vous passez par l'école de journaliste et là, ça vous permet d'avoir des contacts. Soit c'est le mieux, c'est vraiment de rentrer en stage, d'écrire et d'apprendre sur le terrain. Moi, j'ai fait de la PQR pendant 2 ans. Ça a été hyper formateur, quoi. C'était la PQR, presse quotidienne régionale, où vous allez sur les événements, que ça soit des matchs de rugby. Ça m'est aussi arrivé quand je bossais dans le 91. D'aller sur des scènes de crime, etc. Et ça, c'est hyper formateur. C'est juste génial pour apprendre le métier, parce que non seulement vous allez sur place, donc vous faites un travail d'enquête, puis après, il faut écrire rapidement, dans le détail, etc. Et voilà. Et puis après, du coup, bah, moi, je suis rentrée dans un gros groupe de presse, puis j'ai travaillé. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est les 10 premières années, voire les 12, 13. Comme j'avais pas d'enfant, je bossais de 8h à minuit tous les jours. Et j'étais passionnée, donc je bossais même les week-ends, etc. Donc je bossais tout le temps. J'ai adoré ça. Et puis après, à force de travailler, comme j'ai fait, à l'époque, je faisais pas mal de sujets de couverture. C'était moi qui proposais beaucoup de sujets de couverture. On m'a proposé d'abord, j'ai monté les échelons comme ça. Puis un jour, on m'a proposé la direction des rédactions et après.
C'est-à-dire que t'as commencé. T'as eu ton bagage universitaire, tout ça. T'as fait ton école de journalisme et t'as commencé genre pigiste, quoi, en fait.
J'ai commencé stagiaire. Presse régionale. Non, alors oui, pigiste dans la presse régionale. Après, dans ce grand groupe, j'y suis rentrée en étant stagiaire. Et puis j'ai fait de la pige. Et jusqu'au jour où on m'a proposé d'abord un CDD. Et ensuite, un CDI. Et puis, je vous dis, au fur et à mesure des années, en travaillant beaucoup, j'ai monté les échelons.
Mais est-ce que tu t'es dit, je vais faire de la presse people, ou est-ce que tu voulais faire, je ne sais pas moi, de l'enquête ou du journalisme politique? Parce que moi, je te connais bien pour le coup, mais je sais que tu es assez éclectique, tu peux parler en gros de tous les sujets.
Oui, je peux parler de FTX.
Voilà, je peux parler de FTX, hein, comme sur Bistro Liberté avec Olivier Delamarche.
À la base, quand je suis sortie de l'école de journalisme, les professeurs me voyaient plutôt sur des reportages pour le magazine Elle, notamment, où vous allez à l'étranger enquêter sur les femmes afghanes. C'était plutôt ça.
Donc, grand reporter, alors.
Ouais, voilà, plutôt grand reporter. Enfin, c'était un peu mon profil en sortant de l'école de journalisme. Sauf que moi, à l'époque, j'étais toute jeune, j'avais quoi, 22 ans. Et à ce moment-là, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Et j'avais envie de, surtout que j'avais fait un stage au Figaro littéraire, etc. J'avais bossé aussi en télé à la Marche du siècle sur des trucs un peu plombants, très actu, voilà. Et en fait, j'avais envie de m'amuser. Et j'avais pas envie de faire des trucs prise de tête. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé dans le people. En fait, par opportunité, il y a un magazine qui s'est créé. On m'a proposé de piger, j'y ai pigé. Et puis, on m'a demandé de venir bosser à temps complet là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Mais si vous voulez, enfin, moi, c'est pas tant. Alors, la presse people, moi, ce qui m'a amusé dans la presse people, c'est le scoop. C'est vrai que voilà, c'est sortir l'info en premier, c'est toujours ce qui normalement doit éveiller un journaliste people. Après, moi, quand j'ai monté les échelons, ce qui m'a le plus intéressé, c'était la façon dont on faisait un magazine, créer un magazine, gérer, motiver les journalistes qui étaient à l'intérieur, gérer des budgets. Gérer des maquettes, enfin voilà, c'était tout le. T'es pas tant écrire en fait, bon, écrire, faire des interviews, bon, j'ai fait le tour hein, en 10 ans, bon, c'est toujours la même chose, quoi, voilà, mais moi, c'était vraiment plus ça qui m'attirait, c'était de gérer une équipe et des budgets en fait, parce que faut quand même pas oublier, malgré tout, même si on est en presse people, mais c'est le cas pour même la presse généraliste, qu'on reste quand même des produits, entre guillemets. Qu'on fait des produits qui doivent se vendre pour pouvoir continuer à fonctionner.
C'est-à-dire que quand tu dis qu'on fait des produits pour pouvoir se vendre, c'est-à-dire que est-ce que forcément dans l'information, il y a une forme d'exagération ou quelque chose qui fait que on doit accrocher le lecteur, mais peut-être
Ah ben,
en biaisant l'information?
alors, biaisant, oui et non. Enfin, moi, je suis un peu mal placée pour parler parce que c'est sûr que. En presse people, enfin, ça dépend des types de journaux, mais il y en a quelques-uns où, effectivement, le but, c'est de grossir le truc. Après, même dans la presse people, en vrai, ce qui est raconté dans la presse people, à 85%, c'est vrai. Souvent, on s'auto-censure, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout par risque de procédure juridique, etc., ou parce que bah, par déontologie, parce qu'il y a des trucs quand même, c'est assez salace et qu'on va pas aller jusque-là parce que ça porterait trop atteinte à la personne. Mais en général, enfin, tout est vrai. Enfin, je veux dire, il y a pas de, c'est pas des faux trucs quand on vous dit scoop en couve, c'est vraiment un scoop. Voilà, en tout cas, on est persuadé que c'est un scoop. Et je vous dis, moi, en 23 ans, je me suis plantée 2 fois et c'était sur des grossesses. Mais quand on dit scoop, c'est scoop, quoi. Et effectivement, même dans la presse généraliste, évidemment, vous allez faire un titre pour accrocher le lecteur. Vous n'allez pas faire un truc genre il fait beau aujourd'hui, quoi. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas besoin d'un journaliste pour le voir. Et c'est aussi ce qui s'est un peu passé pendant la crise Covid, on
On va l'appeler
avait.
crise sanitaire pour
Pardon?
YouTube. On va l'appeler crise sanitaire pour YouTube.
Pour la crise sanitaire, voilà, on était vraiment dans la surenchère des titres accrocheurs pour, surtout qu'à ce moment-là, évidemment, bah, il n'y avait plus de presse en kiosque, les gens ne se déplaçaient plus à cause des différents confinements. Et donc, du coup, on avait beaucoup d'infos, et que ce soit à la télé et sur Internet, où on faisait des titres accrocheurs pour cliquer, 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 puisque le but, c'est de faire cliquer les gens dans la mesure où plus vous cliquez, plus il y a de pubs qui s'engendrent et plus il y a de revenus qui s'engendrent.
Ben justement, le fait d'écrire des articles ou des titres et publier des photos qui ont pour but de cliquer, est-ce que ça ne crée pas une dérive?
Ah bah si, 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 bien sûr. Aujourd'hui, que ça soit, enfin, que ça soit les médias mainstream ou, enfin, qu'on soit, quel que soit le média dans lequel on et la ligne éditoriale qu'on a, forcément, ça a une dérive. Les gens, enfin, si vous voulez, c'est un peu un cercle vicieux. Les gens achètent moins de presse, donc on est obligé d'accrocher encore plus le lecteur. Donc on va sur des sujets qui sont souvent orientés parce qu'on sait que ces sujets-là marchent mieux que d'autres. Donc en fait, oui, on a souvent un point de vue unilatéral et qui a pour but de faire vendre du papier ou de faire cliquer ou de faire de l'audimat.
Mais du coup, est-ce que lorsqu'il y a dérive, est-ce qu'il peut, on peut arriver à, je dirais pas un mensonge, mais à une vérité qui peut-être n'en est pas une forcément?
Alors, Je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on travaille dans un journal ou sur une chaîne télé, il y a une ligne éditoriale avec comment s'appelle, des sensibilités politiques, économiques, sociologiques, écologiques différentes qui vont faire que l'information et le type d'information que vous allez traiter ne va pas être de la même façon que d'autres. Après, vous avez des journaux qui se veulent plus généraliste, hein, par exemple comme le Parisien, etc., mais qui au fond fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale où voilà, il va falloir aller dans un certain sens pour pas fâcher d'autres personnes. Donc on peut avoir, alors je sais pas, enfin, oui, c'est fait volontairement, mais le but c'est de. Enfin, j'aime pas dire ça parce que je veux pas décrédibiliser le métier, mais c'est sûr que on a un point de vue souvent plus qu'une information.
D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le factuel comme on l'apprend à l'école, enfin, pas à l'école de journalisme, mais qu'on apprend en école, en collège, au lycée, on dit voilà, le journaliste est factuel, voilà.
Alors, il est factuel, mais quand vous partez toujours d'un fait, mais après, dans la façon de rédiger, vous avez toujours une orientation. C'est rare qu'il n'y ait pas d'orientation dans la façon de rédiger, de choisir et de traiter l'information. Enfin, c'est très rare et ça a toujours été le cas.
Alors, j'ai une question de notre ami Clown Intelligent qui a mis 5 euros. Merci, cher Clown Intelligent, des 5 euros. Hein. Coucou Myriam, pourquoi la presse mainstream parle peu de l'affaire Jean-Michel? Je dis que Jean-Michel parce que ça ne plaît pas aussi à YouTube. On connaît la vérité ou ça coûte trop cher de débunker?
Moi personnellement, j'en ai parlé.
Je sais, c'est vrai.
Voilà. Pourquoi on en parle là? Parce que déjà, c'est extrêmement dur d'enquêter sur ce sujet-là. Vraiment. Moi, à l'époque, j'avais envoyé des journalistes. C'était très, très, très compliqué de travailler sur ce sujet-là. Tout de suite, vous avez la police qui vient vous voir pour vous demander ce que vous faites. Récupérer les documents, ça a été quand même hyper bien cloisonné, hyper bien nettoyé. Donc c'est très compliqué. Et du coup, beaucoup de mes collègues ont cru à une énorme blague en fait et ont traité cette information sans même aller vérifier si oui ou non c'était vrai. Parce que en vrai, c'est vrai que ça peut paraître être une énorme blague, mais d'expérience, il n'y a jamais vraiment de fumée sans feu et que quand une info comme ça sort, bah, on a quand même envie d'aller vérifier. Et beaucoup de journalistes ont vraiment été bloqués dès le départ en disant, c'est du fake, c'est n'importe quoi. En plus, ça avait été repris, les informations de Natacha Ray avaient été reprises par faits et documents qui étaient estampillés comme extrême droite. Donc forcément, c'était un complot de la fachosphère et donc il n'était même pas nécessaire d'aller enquêter sur ce sujet-là, puisque de toute façon, c'était juste voilà, pour faire du mal à Brigitte Macron. Et que c'était homophobe, transphobe, enfin tout ce que vous voulez. Alors que moi franchement, en plus, perso, je m'en fiche, enfin voilà, mais je trouvais que c'était une info rigolote, intéressante, et ça aurait été génial de pouvoir prouver le truc, parce que mon Natacha Ray, elle est sympathique, mais elle a plein de preuves, mais elle les montre pas. Donc voilà, donc moi, je voulais absolument récupérer des preuves, enfin aller faire une autre propre enquête. Et franchement, je ne sais pas comment elle fait, Natacha Ray, si elle a ses preuves ou pas, mais c'est quand même très compliqué. Moi, perso, je ne les ai pas trouvées. Hein.
C'est-à-dire que tu n'as pas trouvé parce qu'on t'a empêché de les trouver ou tu n'as pas trouvé parce qu'il n'y a pas de preuve.
Ben, je les ai pas trouvés parce que je vous dis, soit ça a été, enfin, quand vous vous rendez, que ça soit à l'école, quand vous vous rendez au mairie, etc., il reste très peu de documents, que ça soit des photos, des documents officiels, enfin il reste quasiment rien, enfin il reste rien en fait. C'est très compliqué. Vous vous rendez sur les lieux où sont censés vivre, où était censé vivre l'ancien mari de Brigitte Macron ou son frère Jean-Michel Trogneux, et en fait vous vous retrouvez face à des maisons vides, il y a personne. Vous interrogez les voisins, ils vous disent ah oh ben non, je sais pas, j'ai rien vu, machin. Enfin vraiment. Nous, pour avoir fait ce travail-là, alors on a eu quelques infos dont je ne peux pas parler là, mais rien qui nous permette d'aller dans un sens ou dans l'autre, en fait.
T'en conclus quoi, du coup?
J'en conclus, alors, j'ai tapé sur les doigts, mais je m'en fous, j'en conclus que c'est pas normal, en fait. Que pour moi, enfin, c'est vraiment, c'est mes 23 ans d'expérience de press people qui me font dire ça, c'est que quand c'est si dur de trouver, ne serait-ce une preuve pour prouver le contraire, c'est qu'il y a anguille sous roche. Alors, je ne sais pas quoi, hein. Je ne sais pas si c'est un changement de sexe, un changement d'identité, un changement de quoi que ce soit. Mais c'est très bizarre on trouve toujours un petit truc. Là, ça a été extrêmement bien nettoyé. Voilà.
Oui, parce que on avait fait une émission ensemble où justement on a parlé bon dans la rigolade et où tu avais dit que tu avais des facilités. C'était beaucoup plus facile d'enquêter, je sais pas moi, sur Carla Bruni, sur Julie Gaillet ou sur je sais pas ma Bernadette peut-être que sur Brigitte en fait.
Ah oui, totalement. Ah, rien à voir. Vraiment rien à voir. Retrouver des actes de naissance, retrouver des actes de mariage, etc., 10 fois plus facile que sur Brigitte Macron. Ça, c'est une évidence. Et du coup, je veux pas être parce que voilà, ça fait un peu la complosphère, etc. Mais effectivement, pour moi, c'est bizarre. Pourquoi avoir autant nettoyé s'il n'y a rien? Donc il y a forcément quelque chose. Après quoi, j'en sais rien. Ça, je ne vais pas dire. Je vais pas dire. Natacha Arré a raison. J'en sais rien. En plus, pour être très honnête, moi, Natacha Arré, j'ai essayé de la contacter. Elle est quand même un peu, voilà, un peu éparpillée. Et puis voilà. Et puis bon, c'est pas une journaliste, quoi. Et puis moi, si vous voulez, il y a un truc qui m'embête avec elle, c'est que justement, moi, je rêverais d'avoir des preuves. Et si on a des preuves, faut les sortir pour prouver les choses. Moi, c'est un truc, ça, je comprends pas. C'est soit on a les preuves, soit on les sort, soit on se tait en fait. Parce que finalement, sa vie, elle est quoi? Elle n'est pas plus en danger. C'est soit vous dites rien, soit vous dites. Enfin, je sais pas, je trouve ce suspense, c'est pour moi un peu bizarre, quoi. Un peu, ça aussi, pour moi, c'est suspect.
Bon, je pense que c'est pour son bouquin. Bon, bref, après, bon, après, c'est pas.
Ouais, enfin, d'accord, mais bon, ça fait 2 ans qu'elle tease là-dessus. Enfin, je sais
Ouais,
pas, à un moment donné, quand
c'est un
on
teasing un peu
les
long.
sort, quoi. Je veux dire, à partir du moment où elle balance des trucs comme ça, je veux dire que ça soit une histoire pour, soi-disant, pour protéger sa vie, hein, c'est complètement ridicule, quoi. Au contraire, il vaut mieux tout sortir d'un coup et au moins
Donc,
vous êtes tranquille après.
toi, en tant que
Hein?
professionnel, tu sortirais tout d'un coup.
Ah bah évidemment. Ah évidemment, hein, sort tout d'un coup, les preuves, etc. Et après, ça se passe devant la justice. Mais évidemment, évidemment. Ah, moi, je rêverais, hein. Je rêverais, mais. Pour moi, c'est voilà, c'est en plus pour le coup, c'est d'intérêt public. Enfin, c'est d'intérêt public. Donc moi, d'un point de vue juridique, on risque pas grand-chose, quoi.
Dis-moi, aujourd'hui tu es à la télé aussi, bah, tu es sur TPMP. Quel est le différentiel entre justement ce média écrit et la télévision?
Ah, ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Franchement, je suis venue sur TPMP. Voilà, je fais des interventions sur TPMP. C'est totalement. À la base, c'était parce que voilà, j'allais parler people et je faisais. Bah, je parlais des sujets qu'on sortait, donc ça les intéressait, etc. Donc c'était cool. Mais après, nous, on est dans un. Enfin, moi, jusqu'à présent, j'étais dans un métier d'ombre. C'est-à-dire, ça m'allait bien, hein. Enfin, voilà, j'ai jamais, si j'avais voulu faire de la télé, j'aurais commencé à 20 ans, hein, pas 40. Mais voilà, c'est un métier d'ombre. À la télé, forcément, c'est pas la même façon de procéder. Faut que vous soyez très percutant dès le départ. Enfin, voilà, faut que vous accrochiez le téléspectateur. Il y a une relation à l'image qui est un peu, voilà, qui peut être compliquée et qui font de vous quelqu'un de différent de ce que vous êtes en vrai, en fait. Voilà, les gens,
C'est-à-dire que
dès
quoi,
que vous.
tu dois grossir un trait par exemple? Surtout que je remarque une chose sur TPMP, enfin moi je vois pas du tout même TPMP, bon, mais je vois sur les vignettes Twitter, on a l'impression que chacun doit jouer un personnage ou quelque chose ou forcer un trait,
Alors,
parce
personne,
que
en
chacun est
fait.
reconnu sur un trait de caractère.
Alors, c'est ça la force de Cyril Hanouna, c'est pas que chacun joue un rôle, c'est qu'il a pris des personnalités qui sont des grosses personnalités à leur façon. Et du coup, bah, ils sont tels qu'ils peuvent l'être en vrai. Voyez? Et lui, il s'est titillé pour déclencher chez son chroniqueur le truc qui va faire que voilà, il va exploser ou donner de l'humour. Enfin voilà, c'est il prend pas Cyril Hanouna, il prend pas des gens neutres, il prend des gens voilà qu'ont quand même un minimum de charisme, qu'ont du répondant, qu'ont une personnalité en fait. Quelle que soit la personnalité, vous avez la personnalité du gueulard, la personnalité de la gentille fille, de la jolie fille, la dame qui va plus la vieille dame qui va plutôt attirer les comment s'appelle les téléspectateurs plus âgés. Enfin voilà, vous avez tout entre guillemets, on va dire. Tout ce qui reflète un peu la société. Vous voyez, par exemple, Raymond, il va plus incarner le mec qui travaille, etc. Voilà,
Mais
c'est
est-ce que
vraiment
c'est
la force du
spécifique
personnage.
à votre émission ou est-ce que y a une forme de casting aussi sur les autres plateaux par exemple, je ne sais pas moi, dans les débats des chaînes info, par exemple?
Non, c'est vraiment spécifique à TPMP ce genre de casting. Après, sur les chaînes d'info, etc., on va choisir des gens en fonction de leur spécialité, puis s'ils sont percutants ou pas dans leur argumentation.
Alors, j'ai vu que tu avais sorti la vie là, de Johnny Hallyday là, derrière moi. Visiblement, Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday étaient des couples libertins.
Libre,
Voilà.
oui, libre, libre.
Mais comment on peut connaître voilà, ce type d'infos parce que ça, c'est quand même du très intime. Et comment on arrive à voir ça? Est-ce que derrière ce genre d'information, il y a des sources. Est-ce
Ah
que il y a des gens, peut-être même de l'intérieur de la famille de Johnny Hallyday? Comment ça se passe?
ah bah oui, totalement. Enfin, vous savez, souvent les infos qu'on a, c'est par l'entourage proche, hein. C'est vraiment, voilà, c'est des connaissances de connaissances qui font que, voilà, on a toutes ces infos. Bon, après, sur Johnny et Laetitia, ils s'en cachaient pas vraiment, donc c'était pour eux. Enfin, pour le coup, eux, c'était pas très compliqué, quoi. Mais c'est souvent, oui, c'est souvent l'entourage. Ça peut être la cousine, le meilleur pote. Ouais, ça
Mais
peut être.
justement, là-dessus, parce qu'on peut, je sais pas moi, la cousine ou le meilleur pote peuvent avoir envie peut-être de nuire ou peut-être se faire un billet, parce que j'imagine que ces sources ne sont pas gratuites.
Non, c'est pas gratuit. Mais vous savez, il y a aussi des people qui envoient des gens de leur entourage pour donner des infos.
Ah bon?
Ah bah oui, bien sûr, ça se fait. Il y a même des people qui font ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des fausses paparazzades, hein, qui vont en fait, et non seulement toucher de l'argent pour l'achat de la photo, mais qui en plus retoucheront de l'argent parce qu'ils attaqueront le magazine en question d'avoir publié une photo pour laquelle ils étaient d'accord. Mais comme il n'y a pas de truc signé, voilà, donc, non, non, c'est courant. C'est pour ça que souvent, quand on incrimine la presse people, moi, ça me fait marrer parce que les gens, voilà, sont toujours premier degré. Genre, ils ont révélé ça, c'est dégueulasse. Mais enfin, souvent, c'est des choses qui sont révélées aussi parce qu'on a envie qu'elles soient révélées. Je peux vous dire que quand il y a des secrets qu'on n'a pas envie de voir sortir, ils ne sortent pas grâce à différentes possibilités, quoi. Soit en faisant pression sur le magazine, soit parce qu'on est hyper secret et on fait en sorte de ne pas se faire faire choper, enfin voilà, c'est en général quand vous êtes chopé, c'est vraiment soit vous le faites exprès, soit vraiment vous n'avez pas été très vigilant, soit vous avez envie que la fausse sorte au final.
Est-ce qu'il y a une forme de jeu de dupes entre justement ces magazines et les vedettes?
Oh ben oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a un jeu de dupes. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux ont vachement perturbé le travail qu'on faisait jusque-là, dans la mesure où avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc la vie privée c'était des choses qu'on dealait plus facilement avec les people. Aujourd'hui les réseaux sociaux font que s'ils ont envie de communiquer sur un événement, sur une grossesse, sur un mariage, ils vont moins faire appel à la presse people, ils vont carrément le balancer sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux que eux-mêmes vont financer en fait. Avant, souvent, il y avait des people qui vendaient des infos personnelles sur leur propre compte parce que, voilà, on les payait en échange de ces infos. Aujourd'hui, ils vont préférer communiquer via leurs réseaux sociaux puisque ce sont des réseaux sociaux qui monnayent. Donc, c'est un peu
Ouais,
plus chiant pour nous.
ouais, parce que en plus, j'imagine, il y a un réseau social qui est pour le coup qui est vraiment fait pour ça, c'est Instagram, où ils peuvent se faire des belles photos, ou retouchent même des photos, où c'est voilà, où c'est, ça peut être diffusé de façon très large. Alors que j'imagine que lorsqu'il y a la qualité est moins bonne, j'imagine lorsque ça passe sur des magazines, ou lorsque c'est des paparazzi, des choses comme ça, non?
Oui, bon, après, ça dépend. Si vous faites un beau rendez-vous dans Paris Match ou dans Gala avec un papier super beau, c'est sûr que ça, la qualité, elle est quand même, ou même le magazine Elle, quoi. C'est des papiers qui sont quand même super beaux. Mais c'est vrai que Instagram, enfin, les réseaux sociaux d'une manière générale, ont beaucoup changé la donne. C'est-à-dire qu'avant, nous appeler régulièrement pour nous dire voilà je vais me marier, est-ce que vous voulez avoir l'exclusivité du sujet? Voilà, et voilà, donc on payait, on faisait venir une agence, etc., des photographes, etc. On avait l'exclu. Aujourd'hui, on nous appelle quand même un peu moins pour ce genre de jeu, puisque la star va préférer communiquer sur Instagram ou même via une émission de télé-réalité ou de télé, ou j'en sais rien, quoi.
Aujourd'hui, c'est qui les stars? Est-ce que justement, tiens, ce sont les gens de télé-réalité? Est-ce que
Non.
c'est encore les chanteurs ou les comédiens?
Alors, on a eu une grosse, grosse période dans les années 2000-2015 où c'était beaucoup les stars de télé-réalité, hein, notamment Nabila, etc. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce sont plus du tout des gens qui font vendre en presse people. Non, les gens qui font vendre, c'est vraiment les vraies stars. Et je trouve que c'est pas plus mal. Voilà, des gens qui ont vraiment un statut de star et par leur carrière et par leur charisme.
Est-ce que les politiques peuvent eux-mêmes devenir des people?
Alors, ils sont devenus des people. C'est-à-dire que, et ça, c'est notamment Closer, hein, qui a fait d'eux des people, puisque ça a été le magazine. Laurence Puy a été la première à peopliser les politiques. Et effectivement, aujourd'hui, un politique, ça vend hyper bien en couve. Et c'est pour ça que la presse people aujourd'hui n'est plus aussi. Comment dire? Avant, pour moi, la presse people, c'était que du divertissement. Voyez, on parlait de stars, etc. Bon, aujourd'hui, quand vous parlez aussi de politique, d'hommes politiques, la façon dont vous allez traiter l'information et l'aspect de vie privée que vous allez montrer de ces gens-là va forcément orienter l'image que les gens ont d'eux et leur communication. Donc, en fait, quand on fait, moi, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à faire du pipi politique parce que forcément, la façon dont vous les traitez oriente l'opinion. Et forcément, quand on dit la presse people, voilà, si vous dites tout le temps, oh le pauvre Emmanuel Macron, oh voilà, c'est pas facile sa vie, ça sera pas la même chose que si vous dites, oh bah Emmanuel Macron, il s'en prend plein la tête en ce moment parce qu'il est super injuste, notamment avec des gens qui le méritent pas. Enfin, vous voyez, c'est donc aujourd'hui, la presse people a aussi un rôle de entre guillemets politique dans sa façon de traiter justement la vie privée de ces personnalités-là.
Mais est-ce que les politiques utilisent la même méthode que les artistes? Est-ce qu'ils utilisent est-ce qu'ils vous appellent est-ce qu'ils vous payent peut-être aussi
Non, non, non. Non, non. Par contre, ils vont travailler avec certaines agences photos pour voilà faire des séries photos. Je veux dire, quand Emmanuel Macron se déplace ou qu'on a des photos de lui à Fort-Brégançon pendant l'été, bon, voilà, il sait très bien qu'il y a des agences photos autour, quoi. C'est
Là,
pas.
par exemple, quand Emmanuel Macron, comme cet été, fait du jet ski, il veut faire des couvertures.
Ah oh bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien
C'est pas,
sûr.
on rentre pas dans son domaine privé.
Mais non, non,
C'est-à-dire, c'est
non.
calculé par les équipes de communication analysées.
Juste pour faire ce genre de photos, c'est très simple, hein. Il faut avoir un bateau et le suivre. Il ne faut pas non plus être à 2-3 kilomètres. Donc, vous imaginez bien que le photographe, il n'est pas très si loin que ça. Bon, alors, OK, ils ont des gros objectifs, mais il n'est pas non plus à 10 kilomètres d'Emmanuel Macron en plein milieu, de la mer, de la Méditerranée. Donc, forcément, tout le staff d'Emmanuel Macron, tout le monde sait qu'il y a ces photographes. Alors, soit des fois, c'est des agences qu'eux-mêmes ont appelées parce qu'ils travaillent régulièrement avec eux. Hein. C'est plus un secret de dire que Best Image a fait toute la campagne électorale, enfin la première campagne électorale d'Emmanuel Macron, et a organisé tous les reportages photos qu'on avait dans la presse, et notamment dans la presse People. Mais bon, je veux dire, maintenant aujourd'hui, c'est plus que Best Image, hein, il y a toutes les agences qui s'y mettent, mais je veux dire, le service de sécurité d'Emmanuel Macron voit bien les photographes qu'il y a autour, c'est impossible qu'il ne les voit pas.
Ça veut dire que Emmanuel Macron utilise aussi la presse People pour sa communication, parce que ça fait partie de sa communication.
Ah bah évidemment. Et puis de toute façon, on préférera avoir une photo retouchée, un peu voilà, où on améliorera peut-être la peau, les couleurs, que d'avoir une photo de paparazzi dégueulasse où on montre sous vos pires défauts, quoi.
Ah, c'est-à-dire que, par exemple, quand il est sur son scooter, c'est aussi une photo retouchée.
Ah ben oui, souvent la photo est retouchée, oui. Elle est retravaillée, soit les couleurs, soit… Oui, c'est retravaillé.
Et mais lui, à quoi ça lui sert de communiquer comme ça, de cette façon-là, en disant « Regardez, je fais du jet ski
Ouais, je pense qu'il y a un côté, on sait très bien, il y a un côté, bon déjà Emmanuel Macron, il y a un côté voilà, sexy qui veut donner de sa personne, un peu, alors pas comme Hollande, hein, pas de président normal, mais bon, voilà, d'un président dynamique, jeune, sportif, enfin voilà, c'est vraiment, c'est l'image qu'il veut donner du jeune leader politique qui est en forme, etc. Enfin, on l'a eu en jet ski, hein, on l'a pas eu avec des comment s'appelle des lunettes de plongée et des palmes, quoi. Enfin, c'était beaucoup moins sexy, hein.
Non, parce que c'est une période où, je sais pas, moi je trouve quand même bizarre qu'il communique comme ça. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai jamais vu d'autres présidents communiquer comme ça pendant leurs vacances. Parce que théoriquement, un président, c'est pas une personne comme tout le monde. Bon, ça peut aller en vacances évidemment, mais théoriquement, ça travaille, enfin tout le temps.
Oui, ça travaille. Après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a beaucoup changé les lignes à ce niveau-là, au niveau de la communication. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait quand même des présidents qui n'étaient pas forcément, qui organisaient une fois de temps en temps un grand reportage intime, souvent dans Paris Match, voilà, où l'épouse faisait une belle interview dans le magazine Elle et où Gala, par exemple. Mais c'est vrai que là-dessus, Emmanuel Macron a beaucoup plus démocratisé les photos de président, hein, pour le plus grand bonheur de la presse People, on va pas se mentir.
Mais est-ce que par exemple ces couvertures avec Macron qui fait du jet ski, est-ce que ça se vend beaucoup?
Oui, ça se vend super bien.
Ça se vend super bien.
Ouais, ça se vend hyper bien.
Ça te surprend ou pas? Moi, ça me surprend.
Ça me surprend, ça me fait mal de le dire, hein, parce que bon, tout le monde sait ce que je pense d'Emmanuel Macron, mais ça reste quand même quelqu'un qui est plutôt sexy en couverture. Et puis c'est vrai que voilà, son histoire, on a envie de le voir dans l'intimité, avec toutes les interrogations que ça peut avoir, hein, d'ailleurs, hein, de voyeurisme et ne serait-ce que par rapport au sujet dont on parlait avant, on a envie de le voir dans l'intimité avec Brigitte. C'est vrai qu'il suscite beaucoup de mystères, et les gens ont envie de savoir. Peut-être qu'avant, on avait moins envie de savoir la vie privée des gens. Et puis surtout, c'était beaucoup plus caché, hein. Mitterrand, par exemple, l'affaire Mazarine, c'était quelque chose qui, à l'époque, se savait beaucoup dans les rédactions. Mais on communiquait pas de la même façon sur un président. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on a vraiment pipolisé les politiques, hein. On a révélé des coming out, on a révélé des politiques à la plage dans des tenues qui n'étaient pas forcément à leur avantage. C'est vrai qu'on n'a pas, peut-être pas aidé, on ne va pas se mentir, à faire de cette fonction quelque chose d'un peu sérieux. On a voulu les montrer sous leur vrai jour. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je crois en vrai que c'est bien, mais bon, après, c'est peut-être mon côté people qui fait ça.
Et est-ce que tu as déjà eu affaire au service com de l'Élysée?
Oui.
Et comment ils sont? Des vrais professionnels qui regardent oui. Tout
Non, ils sont plus. Non, en général, ils vous appellent quand il y a une info qui leur plaît pas trop. Ils vous appellent pour vous dire voilà, c'est. Parce que souvent sur des sites people, voilà, il y avait des choses qui étaient un peu exagérées, des titres qui étaient hyper accrocheurs et qui ne correspondaient pas vraiment à la vérité, hein, ça c'est vrai. Et du coup, bah, ils vous appelaient en disant ouais, c'est un peu abusé, est-ce que vous pouvez changer ça? Et en général, comme vous avez une direction qui est très touchy là-dessus, vous changez tout de suite parce que vous voulez pas qu'ils appellent vos directeurs généraux, enfin votre big boss, quoi. Donc vous changez tout de suite.
D'accord, donc ça veut dire que le service de communication de l'Élysée est interventionniste, en fait.
Bah, il intervient. Après, je ne vous manque pas, ce n'est pas celui qui intervient le plus, hein. Vraiment, ils sont plutôt cool.
Et qu'est-ce qui a changé entre tes débuts dans le métier et aujourd'hui, dans ce journalisme?
L'autocensure. C'est-à-dire que avant on y allait, on s'auto-censurait pas avant même d'avoir traité l'info et d'avoir cherché. Aujourd'hui, ça va être non, on va pas sur ce genre d'info. Non, ça, je fais pas. Non, mais ça, on peut pas dire que ça comme ça. Enfin voilà, c'est aujourd'hui les journalistes s'auto-censurent eux-mêmes. Et ça, je trouve ça hyper dommage.
Et c'est la nouvelle génération ou c'est tous les journalistes qui s'auto-censurent?
C'est la nouvelle génération et puis d'une manière générale, hein, les places sont chères, hein, sont très chères, donc on n'a pas envie de perdre sa place, quoi.
Et, ça veut dire que des journalistes ne vont pas aller au bout d'un sujet quelconque, pas forcément people, mais on va dire, un sujet même financier, on va dire, voilà, ou politique, ou ce qu'on veut. Par autocensure, par peur de
vous
perdre.
Vous avez intérêt à avoir un actionnaire ou un directeur général qui vous soutient parce que vous savez que si vous sortez l'info, vous êtes le premier fusible qui va sauter. Si ça crée des problèmes, etc., s'il y a quelqu'un qu'on doit faire, on doit te couper une tête, on sait très bien que ça sera la vôtre. Ce sera même pas forcément celle du journaliste qui sortira l'info, ce sera celle du directeur qui aura publié l'information.
D'accord. Donc du coup.
Et ça, c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que c'est souvent des actionnaires qui dirigent les groupes de presse. Donc il y a des intérêts financiers qui sont en jeu. Et du coup, si vous êtes pas, si vous n'avez pas fait. Si vous avez sorti un truc qui peut porter préjudice au groupe, vous prenez un risque de sauter, oui. Excusez-moi, je ferme la fenêtre.
Vas-y, vas-y. Là, c'est vent appartement, là. voilà, visite d'appartement de Myriam Palomba. Et c'est drôle, il y a 20 ans, ça ne se passait pas comme ça, du coup. C'est-à-dire que tu as un sujet, vous l'avez travaillé le sujet, vous avez enquêté sur le sujet, vous diffusez, point. Là, aujourd'hui, non.
Ça l'était déjà avant, on va pas non plus mentir. Hein. Moi, je me souviens du directeur de Paris Match qui avait sorti la rupture Cécilia Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Il n'est pas resté beaucoup longtemps après. Hein. Donc, 3 mois plus tard, il était dehors. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est encore plus présent. C'est vraiment, 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 vraiment très présent. Moi, ça, je l'ai vu depuis 5-6 ans. C'est très, très présent. Et du coup, les gens vont s'auto-censurer pour pas avoir de problème.
C'est dingue.
Ouais.
Alors, j'ai une question d'un internaute. Coucou Myriam, que penses-tu de la précarisation du métier de journaliste, évolution du modèle économique des journaux ou tactique pour intimider les journalistes trop libres?
Bah, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que finalement, il y a un manque de comment ça s'appelle, de crédibilité du lecteur envers le journaliste. Donc la presse se vend moins bien. Donc moins ça se vend, moins vous allez en kiosque acheter des journaux et moins la presse peut être libre en fait. Parce que moins il y a de revenus pour enquêter, pour avoir des journalistes compétents, etc. Plus on va dépendre et de l'actionnaire et des aides de l'État. Donc forcément, si vous voulez, moins les gens achètent, plus vous êtes dépendant de gens plus haut que vous, et moins l'information, en fait, plus l'information va être orientée ou tronquée, ou voyez, ou pas dit sur tous ces aspects, parce que vous dépendez financièrement de gens dont vous parlez, en fait. Et ça, c'est parce que, et si vous voulez, du coup, le lecteur d'un côté se sent a l'impression qu'on le dupe, mais en même temps, du coup, qu'il va plus acheter, mais plus moins il achète, et plus ça se reproduit en fait, puisque ben, voyez là, Emmanuel Macron vient de dire qu'il allait avoir 300 millions, je crois, d'aide supplémentaire pour la presse. Ben, vous imaginez bien que quand vous recevez ces aides de l'État. Et que c'est votre actionnaire qui les reçoit dans ses comptes globaux, et quand il regarde ses comptes à la fin, bah, il voit bien que son résultat va pas être le même sans les aides. Donc, bah, il va dire à ses directeurs de rédaction, mollo, quoi, on a
Oui, mais
besoin des
est-ce
aides.
que les actionnaires achètent, qui sont souvent milliardaires, ils n'achètent pas, par exemple, Le Monde ou Le Figaro pour gagner de l'argent? J'imagine qu'ils achètent plutôt pour une influence.
Alors, ils achètent à la base pour une influence, ça c'est sûr. C'est sûr, puisque voilà, détenir la presse, c'est voilà, détenir le cinquième pouvoir. Mais en même temps, ils ne peuvent pas renflouer les caisses sans cesse. Ça coûte cher de faire des journaux. Le papier, il a pris 90%, les coûts d'imprimerie ont vachement augmenté, tout a augmenté. Un journaliste, même s'ils sont de moins en moins bien payés qu'avant, bah, ça coûte quand même de l'argent. Du coup, ce qu'on fait en général, c'est qu'on décime un peu les rédactions. Pour avoir moins de coûts, bah, c'est sur la masse salariale qu'on va le plus gratter. Donc, moins de journalistes veut dire moins d'enquêtes, veut dire moins de travail de recherche, veut dire moins de enfin, le métier, forcément, la qualité du métier s'en ressent, c'est obligé.
Mais comment t'expliques que en France, justement, on achète de moins en moins la presse, alors que en Angleterre, la presse, les tabloïds sont à 3-4 millions d'exemplaires jour, Bild en Allemagne, pareil. Ben voilà, nos voisins européens, eux, vendent de la presse, contrairement à la France. Comment tu expliques ça?
C'est culturel, hein. Ça a toujours été le cas. Ils ont toujours plus vendu dans nos pays. Enfin, même eux, hein, quand même, subissent des baisses. Hein. C'est pas comme avant, hein, non plus. Mais voilà, ils ont toujours plus lu que nous. Et puis aujourd'hui, on a un réseau en France qui est maltraité. On a énormément de kiosques qui ferment. On a un réseau de distribution qui est pas top. Donc, plus les gens en France, on lit moins, on est plus sur la télé, sur l'info gratuite, sur Internet. Et puis, ce qu'on a réussi à faire à l'étranger, qu'on n'a pas forcément réussi à faire en France de façon proportionnelle par rapport à la baisse de la diffusion de la presse écrite, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas réussi à monnayer les infos gratuites. Sur le net, comme les gens ont pu le réussir en Angleterre ou en Allemagne. Aujourd'hui, en France, comment ça s'appelle, quand vous publiez une info gratuitement sur Internet, vous avez 90% des revenus pubs qui vont au GAFA. Et le reste,
Ouais, c'est pas le
au.
cas à l'étranger.
Bah, ça dépend parce qu'en fait, les GAFA, les droits voisins qui ont été établis à l'échelle européenne, les GAFA ont négocié des contrats différents en fonction des médias. Ils ont pas réussi. Enfin, l'Europe n'a pas réussi à faire valoir sur tout le continent les droits voisins tels qu'ils devraient être appliqués. Donc, c'est au cas par cas. Et d'ailleurs, même en France aujourd'hui, les GAFA négocient au cas par cas. Alors, il y a quelques éditeurs qui sont toujours en compète et qui veulent absolument faire valider ces droits voisins. Mais il y a énormément, il y a d'autres groupes de presse qui ont carrément négocié Le Monde, Prisma, etc. Ils ont carrément négocié avec les GAFA qui leur donnent pour leur contenu, je ne sais pas, 1 million, 2 millions par an. Voilà.
Est-ce que le fait que la France ait une agence de presse, une des plus importantes du monde, et que du coup aussi les quotidiens ben, s'en servent allègrement, parce qu'on voit, faut dire les choses, au moins 90% des articles lus, en tout cas sur les quotidiens Internet, tu vois marqué AFP et pas le nom du journaliste. Est-ce que ça aussi,
Alors,
ça
c'est un vrai problème, l'AFP, parce que justement, c'est que il n'y a qu'une source, entre guillemets, d'information, l'AFP. Alors, il y a aussi Reuters, hein, mais ce n'est pas français. Et le problème, c'est qu'avant, quand on recevait une info de l'AFP, bon, ok, c'était super, l'AFP pour nous, c'était fiable, etc. Sauf qu'aujourd'hui, mais enfin, avant, quand on la recevait, on allait quand même vérifier le truc et machin. Là, on n'a plus le temps, en fait, de vérifier, vu qu'il y a moins de journalistes. Donc, ce que dit l'AFP, c'est parole d'évangile. Hein.
Ben c'est
Donc,
ça.
c'est un
Parce
peu.
que moi, je vais te
Voilà.
dire, moi, on me dit toujours, ah, ta source. Mais moi, je réponds toujours, mais attendez, vous demandez jamais la source à l'AFP.
Non, non, non. L'AFP, c'est parole d'évangile. C'est-à-dire, ce que dit l'AFP, c'est vrai. Pour tous les journalistes.
Et ça, cette évolution, elle est arrivée parce que y a moins de journalistes et donc, du coup, il faut sortir l'info en premier.
Oui, et puis c'est vrai que bon, l'AFP a toujours eu une crédibilité. Hein, moi, depuis que j'ai commencé, c'est vrai que l'AFP, c'était vraiment waouh, l'AFP, quoi. Bon, mais c'est vrai qu'avant, on prenait le temps de regarder, voilà, de chercher, etc. Bah, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus que ça et on n'utilise plus que ça. Donc forcément, et puis même l'AFP reçoit beaucoup d'aides de l'État. Enfin, voilà, je vous dis, c'est un cercle vicieux, quoi.
Ben, l'AFP, c'est un organe d'État pour moi.
C'est un
Même si
organe
c'est
d'État, ouais.
privé en réalité, mais c'est un organe d'État. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui travaille pour l'État. Mais tu as vu cette évolution arriver là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une aussi grande prédominance que ça de l'AFP.
Alors, si, il y a toujours une dominance de l'AFP, mais comme je te le disais tout à l'heure, on faisait un travail par derrière. Après, c'est vrai que depuis 4-5 ans, je trouve que voilà, il y a une véritable orientation où l'AFP décide en fait des contenus éditoriaux en fait, puisqu'elle est source exclusive de l'information.
D'accord. Donc,
Donc en fonction de la personne qui va être à la tête de l'AFP, de ses comment ça s'appelle, de ses rapports avec l'État, enfin avec les autorités, le gouvernement, etc. Bah forcément, voilà.
alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune journaliste, enfin un jeune, même pas journaliste, à un jeune qui voudrait se lancer dans le journalisme?
Eh bah, ben bon courage.
Bon, d'accord.
Je lui dirais de s'intéresser aux gens, de ne pas avoir peur de dire la vérité telle qu'il l'a constatée de façon factuelle. Et je lui dirais quand même bon courage parce que c'est aujourd'hui, ce n'est plus aussi évident que ça de faire son métier correctement. Voilà. Et qu'il faut en vouloir et qu'il faut garder la foi. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai penser à changer de carrière parce que j'ai vraiment été dégoûtée par le métier.
Ah bon?
Et mais malheureusement, c'est un truc que j'ai en moi. Et enfin, malheureusement, non, j'exagère, mais c'est quelque chose que j'ai en moi et j'ai toujours ce truc-là qui fait que voilà, c'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Mais c'est vrai que c'est éprouvant de faire ce métier. Voilà. C'est plus aussi. Enfin, moi, c'était vraiment un rêve d'ado, quoi. c'est plus aussi amusant et sympathique que ça l'était. Et moi, je suis que sur de la presse people, alors vous imaginez.
Merci beaucoup, chère Myriam. Alors, je sais que ton temps est compté, évidemment. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ce métier de journaliste. Voilà, donc j'espère que vous avez pu apprendre des choses parce que voilà, Myriam, elle est cash, elle s'auto-censure pas. Et donc, du
Non.
coup, j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses sur ce métier de journaliste. Merci à tous,
Merci.
passez une excellente journée et à dimanche soir avec Françoise Nicolas, ancienne ambassadrice au Bénin. Nous allons parler de la France-Afrique et des histoires avec Madame Loiseau qu'elle a eue, Madame Nicole Loiseau, je ne sais plus exactement d'ailleurs, qui est ancienne ministre Renaissance et députée européen de chez Macron. Merci à tous. Allez, salut, ciao.
Salut.